Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Elles s'élanceront à 320 mètres de haut, quasiment la taille de la tour Eiffel. Elles devraient accueillir à elles deux 37 000 mètres carrés de bureaux, plus de 500 résidences de luxe, un hôtel, 120 logements pour étudiants, une galerie d'art, des commerces, le tout au bord de la Seine, dans le quartier d'affaires de la Défense. Les tours jumelles Hermitage sont censées devenir les plus hautes d'Europe. Le projet faramineux, estimé à 2,8 milliards d'euros, soit le plus gros investissement immobilier en France depuis Disneyland, est né en 2007 dans l'esprit aventureux d'un étonnant promoteur russe, Emin Iskenderov. Il a été officialisé en 2010 par un protocole signé entre la France et la Russie. Vladimir Poutine a promis de venir en personne poser la première pierre. 8 ans plus tard, toujours rien, pas de première pierre. La faute au nombre impressionnant de recours qui ont été déposés pour faire annuler le permis de construire et empêcher les expulsions, et aux récalcitrants. Car pour construire les tours, figurez-vous qu'il faut détruire tout un ensemble de 250 logements sociaux, les résidences des damiers, et en expulser les habitants. Pour l'heure, ils sont déjà 235 à être partis, la plupart ont été relogés. Mais une petite dizaine d'appartements est encore occupée par d'irréductibles locataires qui ne veulent pas quitter leur foyer. Élodie Maillot a rencontré deux habitants des damiers, une femme qui part et une femme qui reste. On les écoute tout de suite, tandis que le sémillant promoteur russe continue à affirmer que les tours Hermitage seront prêtes avant les JO de 2024.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, inventaire des biens déménagés ou séquestrés. Il y en a 10 pages, recto verso. Un miroir, un angelot, un balai, deux parapluies, un porte-manteau, une plaque sur laquelle est inscrite une prière, une boîte en bois dessus cuir, ce sont des boîtes à cigares ça en fait, un home cinéma chez Sherwood, un tableau un sur toile fort, représentant un arbre signé, quatre pyramides, une jarre, un tableau sur toile sur fond bleu, champagne.
Sur fond bleu signé,
jacquard, une service de trois grandes coupes à glace en verre, un plateau rectangulaire en inox, bon. C'est tout ce qu'on a. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas citées d'ailleurs dedans. Les vêtements, les chaussures, enfin bon, Il manque des choses, c'est clair.
Je m'appelle Anne. Aujourd'hui, ma famille n'a plus d'appartement. Nous sommes dehors. Abrités par des amis pour un temps. Mais c'est un CDD, quoi. C'est la fin du mois. Voilà, donc fin octobre, nous n'avons plus de toit. Nous sommes des Français comme tous les autres. Nous travaillons, nous vivons, enfin bon, voilà. On a été expulsés, tout simplement. Ce qui nous est arrivé, c'est que nous avions un très bel appartement dans un très bel immeuble de grand standing, avec une très très belle vue sur Paris, des grands balcons, terrasses. C'était vraiment le nec plus ultra en matière de construction, parce que en plus l'architecte avait bien vu les choses, il voulait qu'il y ait un maximum de lumière, pour ça qu'on est tous d'immenses baies vitrées. Mais en fait, cet endroit magique, entre guillemets, qui donnait sur la Seine et sur le pont de Neuilly, ben d'autres le convoitent. Et on mit tout en place pour mettre les habitants dehors, malgré les lois de la République française et des droits des Français. Pour être expulsé en France, il faut soit ne pas payer ses loyers et ses charges, hein, et avoir déjà été condamné par le passé, etc., etc. Enfin bon, bref. Ou être une gêne pour vos voisins. Et on n'entre dans aucun des deux. Aucun de nos voisins non plus n'entre dans ce cadre. Le 1er août, à 6h30 du matin, on a sonné à notre porte. Donc je me réveille en sursaut. Je me dis, 6h30 du matin, ça peut être que pour une urgence. J'ai peut-être un voisin qui a un problème. Donc voilà, je me suis pas posé de questions. Je me suis levée en tenue de nuit, et je suis allée ouvrir la porte comme ça, dans l'urgence. Face à moi, il y avait des policiers, je sais pas, ils étaient entre 4 et 6, avec des gilets pare-balles, armés, comme si on était des terroristes. Enfin, c'est absolument incroyable. Il y avait une femme qui était huissier, enfin qui doit l'être toujours d'ailleurs, sa photographe et un monsieur qui devait être serrurier. J'ai demandé 2 minutes pour que je puisse m'habiller dans une tenue décente et là, ça n'a même pas été possible. J'ai été obligée d'ouvrir grand ma porte et tout ce petit monde est entré dans ma maison. Donc voilà, on m'a demandé de faire mes valises. Ils ont dit, écoutez, mettez tout ce que vous pouvez, faites comme si vous partiez en vacances. Mais de façon très très gentille, parce qu'ils voyaient bien le désarroi. L'un des policiers qui était là me tend une boîte dans laquelle il y avait les montres de mon mari dedans. Gentiment, on me dit, non, n'oubliez pas ça, parce qu'on ne sait jamais, ça peut disparaître.
Une montre de valeur ?
Bah oui, pour certaines, oui. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, j'ai attrapé tout ce qui me tombait sous la main. Bah, des t-shirts, des shorts, jeans, sandales. J'ai rempli 3 valises avec ça. Mais on était tellement désorientés, pas possibilité de prendre 2 douches, de café. Enfin si, j'ai pris un café. Mais bon, voilà, puis voir tous ces gens dans mon salon, ma salle à manger, balancer des trucs dans des cartons, enfin balancer des livres. À un moment donné, je me suis même un petit peu agacée, parce que je disais à l'un des déménageurs, mais attendez, vous balancez des trucs comme ça Non, mais j'ai pas balancé, j'ai posé. Non, vous ne posez pas, vous balancez. Vous seriez content si on traitait vos affaires de la sorte. J'ai eu l'idée de prendre un petit pull, une paire de boots qui traînaient dans la salle de bain. Voilà ce que j'ai sur moi. Quand mon fils est arrivé dans l'entrée pour récupérer ses chaussures, il n'y a plus de chaussures. Donc il est devenu vert, évidemment, et puis parce que c'est choquant, quoi. C'est un truc de fou. Donc je lui ai demandé d'aller farfouiller dans son armoire qui était encore là dans sa chambre pour voir s'il n'y avait pas une paire de chaussures, quelque chose à se mettre au pied. Il a retrouvé une vieille paire de tongs. C'est tout ce qui lui restait. Lui, il est extrêmement perturbé. Comme il dit, ça ne se fait pas. Madame Desportes, juge du tribunal d'instance de Courbevoie, a demandé notre expulsion avec exécution provisoire. Donc voilà, ça veut dire que même si on part en appel, l'expulsion doit avoir lieu. Nous sommes des gens, des familles, qu'on a foutu à la porte au nom d'un projet immobilier faramineux qui ne se fera pas. De toute façon, le promoteur n'a pas le premier sou pour le faire. Il a des dettes partout, donc comment voulez-vous qu'il assume un projet immobilier à 3 milliards ? C'est impossible. D'abord, on s'est retrouvé un petit peu en bas en se demandant, mais bon... Oui, comment on caisse? Et après, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai appelé un copain, il a décroché tout de suite, je lui ai raconté ce qui se passait et il m'a dit, écoute, j'ai une solution pour ce soir. Donc on est allé déposer un dossier tout de suite à la mairie, en urgence. On attend toujours des nouvelles d'ailleurs. Enfin, c'est un truc de dingue. Ça paraissait tellement impossible. On ne se serait jamais imaginé qu'on vivrait ce qu'on a vécu. Alors d'abord, il n'y avait plus d'entretien, plus aucun entretien, plus rien. Les accès aux immeubles étaient d'immenses espaces vitrés qui étaient toujours pas propres, vraiment sales. Des fuites à n'en plus finir dans les parties communes. C'était pas des petites mares d'eau, c'était des mares. En fait, nos entrées d'immeubles sur le sol, c'est du marbre. Les murs sont du marbre. Quand l'eau se répandait, en fait, on voyait la différence avec le marbre, comme si c'était un lac.
L'eau coulait du plafond.
Oui, oui, oui. On demandait évidemment les réparations, les trucs, les machins, rien n'était jamais fait. Tout a été fait pour nous faire partir de chez nous. L'an dernier, au mois de décembre, pendant une semaine, nous avons eu une coupure d'eau. Donc nous avons vécu sans eau. Il n'y avait plus de gardien, il y avait un gardien qui était là depuis des années, qui habitait là d'ailleurs, et qui a soudain déménagé avec sa famille. Ils ont installé des caméras sur les paliers. On nous a retiré les interphones aussi, sans nous prévenir, c'était en 2008. Il y a eu tellement de choses. Je crois que pendant 3 semaines, nous n'avons pas eu de chauffage du tout. Il y avait 12 degrés dans mon salon. Et nous avons eu les poubelles à un moment donné où il y a une canicule pendant 3 semaines dehors sous nos fenêtres. C'était vraiment épouvantable. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu beaucoup de squatteurs aussi, qui allaient et venaient dans nos immeubles sans y être invités, qui dormaient sur les paliers ou dans les parties communes telles que les voies pompiers. Il y en a même un qui avait installé une tente Kesher, sur l'un des paliers. Oui, oui, c'est pas des blagues, hein. Toutes les photos ont été prises. Donc, pour prouver ce qu'on dit, parce que c'est tellement extraordinaire qu'à chaque fois on prenait des photos parce qu'on se disait, personne ne nous croira, quoi. Sinon, il y a les ascenseurs qui étaient sabotés aussi. Bah, c'est à plusieurs reprises, c'est pas arrivé qu'une fois, c'est arrivé des dizaines de fois que des câbles ont été coupés pour mettre l'ascenseur à mal et donc pour obliger les gens à grimper les escaliers. Une dame âgée qui avait plus de 70 ans, combien de fois elle a monté ses étages et pendant combien de temps elle habitait au 11e étage et elle était obligée de porter ses courses à bout de bras jusque chez elle. Donc voilà, et dans les derniers temps, c'est-à-dire en février dernier, je prends l'ascenseur un soir en rentrant chez moi. Arrivé à mon étage, curieusement, l'ascenseur ne s'est pas arrêté, mais il a pris de la vitesse, mais beaucoup de vitesse. Et il est allé percuter le plafond de la machinerie, donc quelques mètres, on va dire, plus haut. En fait, c'est un peu comme... quelle sensation, si vous faites du ski ou si vous montez à cheval, au moment où le cheval saute, vous avez une impression d'envol. Vous-même, vous avez une impression d'envol pour retomber après. Mais quand vous faites du saut à cheval, vous savez monter à cheval et vous savez comment retomber sur votre selle. Sauf que là, dans un ascenseur, moi, je sais pas monter en ascenseur comme ça. Et en fait, je me suis sentie soulevée et ensuite retombée sur le sol de l'ascenseur, mais avec énormément de violence. Voilà, et si j'avais été cardiaque, je serais plus là. Quand on voit toutes les affaires partir, vous vous dites, quel gâchis. On n'a plus de toit, nous sommes pas sans abri, mais SDF sans domicile fixe, c'est vraiment le cas, quoi. C'est les sans domicile fixe d'une nouvelle génération. Imaginez-vous, vous habitez depuis 19 ans, vous avez élevé votre fils là-dedans, vous avez vécu votre vie de famille, vous avez reçu plein de gens, des Noëls, des anniversaires, quel gâchis. Voilà ce qu'on se dit. Mais qu'est-ce qu'on ressent ? Une injustice profonde, que le mal est arrivé à ses fins. Pour l'instant, on est plus dans la problématique de savoir où on va atterrir d'ici 3 ou 4 semaines. Et à la fin du mois d'octobre, il faut absolument qu'on ait trouvé quelque chose de plus, comment dirais-je, pérenne. Il ne reste plus rien, quoi. Donc, voilà. Donc, bien sûr qu'on a voulu se battre. En tous les cas, cet appartement, nous le doit. On nous le doit, ça c'est sûr. Si vous laissez faire, c'est la débandade. Voilà, il n'y a plus rien. Donc là, les choses sont graves. Si on continue comme ça, n'importe quel Français peut nous se retrouver dans notre situation.
Ça c'est 16-17, l'entrée, ça c'était 13-14, là c'est 15, vous voyez là-bas où il y a les plantes, j'habite.
C'est votre balcon ?
Ah oui, c'est mes arbres que j'ai élevés en même temps que mes enfants.
Ils sont immenses.
Oui, ils sont immenses et que j'espère qu'ils vont résister là jusqu'au bout.
Pour construire les deux tours Hermitage imaginées par le promoteur russe Emil Iskandarov à la Défense, il faut évacuer les habitants de la résidence d'Amier. Dans un des blocs de cette résidence, baptisée d'Amier d'Anjou, une poignée de locataires restent déterminés à ne pas quitter les lieux, malgré l'expulsion de leurs voisins en août, malgré les pressions et la dégradation de leur quotidien. Grâce à une faille juridique dans les propositions de relogement qui leur ont été faites, ils sont encore là. Pour visiter l'appartement qu'elle refuse toujours de quitter, Tatiana me donne rendez-vous sur la place de saison, devant la tour First, la plus haute tour de la Défense, un bâtiment ultra-moderne où travaillent des jeunes cadres dynamiques qui viennent fumer leurs cigarettes devant ces blocs d'immeubles gris, presque vidés, jamais rénovés depuis les années 70, et qui font maintenant face à des tours modernes en forme d'ogive façon East London ou New York.
Regardez les plantes qui sont là-bas mortes. Vous voyez, c'était des terrasses fleuries avant.
Elles sont mortes parce que les gens ne sont plus là.
Ils ont été expulsés.
Oui, ils ont été expulsés. Les terrasses, au fur et à mesure que les gens sont partis, ils n'ont pas pu ramener leurs plantes avec eux. Donc là, elles sont en train de mourir. Ça, c'est l'immeuble qui a été évacué le 1er août de tous ses locataires. Donc, les dernières qui étaient là, ils ont été expulsés à 6h30 du matin, sont arrivés avec la police et les ont mis dehors, comme des malpropres. Mais écoutez, ce sont les premiers immeubles qui ont été construits à la Défense en 1974. Apparemment, à côté de ces immeubles, il y avait des champs, les gens qui cultivaient leurs légumes. Donc, mais depuis leur construction n'ont jamais été rénovées. Vous voyez par là, je traverse le pont de Neuilly. Et de l'autre côté, derrière ces arbres, c'est l'hôpital dans lequel je travaille.
Travailler à l'hôpital?
Oui, je suis médecin anesthésiste à l'hôpital de Neuilly. Quand je suis arrivée là, en 95, je fais des calculs, c'est 23 ans, pour moi c'était l'endroit où je pose mes bagages pour ne plus partir. Je viens de la Roumanie et j'ai quitté la Roumanie en 86, à l'époque de Ceausescu, après une bataille de longue durée. Et même là, dans toute cette situation-là, je sais que je reste. Si vous voyez au 7e étage, il y a aussi un sapin. Donc, c'est notre voisin Wolfgang qui habite toujours là. Et si vous voyez bien au 1er étage, il y a encore des fleurs. Ouais. Donc, c'est ma voisine Gisèle qui habite toujours là.
Donc, on a un peu l'impression que le quartier est abandonné.
Pas tout à fait abandonné parce qu'il y en a plusieurs SDF qui sont bien là.
Des SDF qui
vivent. Vous voyez un qui est déjà là-bas. Hier, il y avait des vêtements à sécher là-bas, là. À 2h du matin, on a la musique, ils font leur vie. Hein. Vous voyez, ils ont l'eau, ils sont bien organisés. Hein. Il y a 2 semaines, en rentrant du travail, j'avais vu le feu allumé et j'ai commencé à crier, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit tout simplement, il va faire un barbecue. C'est tout triste, bien sûr. Bon, les tags partout, ce que vous voulez. Dans cet endroit, j'ai vu des gens vivre, j'ai vu des enfants grandir, j'ai vu des vies s'épanouir. Et que maintenant, je vois l'état de cet immeuble, ça me fait de la peine. Et là, c'est les panneaux, les permis de construire qui ont beaucoup changé. Hein? Bah, le bénéficiaire, c'est de CNC, les locataires, représentés par Messieurs Emine Iskenderov.
Donc ici, on voit que le permis de construire est rédigé au nom d'Emine Iskenderov, qui serait un milliardaire russe qui a prévu de construire ici, sur cette dalle, à la place de vos immeubles, deux grandes tours jumelles, c'est ça?
Oui, le 28 janvier 2008, on a trouvé dans nos boîtes à lettres un papier par lequel il nous présentait qu'il va falloir quitter les endroits parce que dans l'intérêt national, je dis bien intérêt national, ils vont construire 2 tours dans cet endroit. Mais c'est tout à fait des affaires privées. Ce n'est pas du tout l'intérêt national parce que dans tous leurs projets, je n'ai pas vu même pas une école, même pas un hôpital, même pas. Donc j'ai vu des spas, j'ai vu des bureaux, j'ai vu dans leurs projets autre chose écrit. Mais ça ne me semble pas du tout l'intérêt national, ça.
Alors, c'est par où chez vous? Il n'y a plus qu'une seule boîte aux lettres?
Deux boîtes à lettres.
Les autres sont vides. Il n'y a même plus de nom.
Ben non, ben heureusement qu'ils ont enlevé comme ça. Au moins, il n'y a pas la publicité dans toutes les boîtes.
Je suis rentrée dans cet appartement en décembre 1995. On a mis nos économies dans cet endroit et on se dit, c'est là qu'on pose nos bagages pour toujours. Donc, pour nous, c'était l'endroit où on va finir nos vies. On s'est dit, ça va, on va refaire nos racines, on va pouvoir se poser, enfin se poser. C'est extraordinaire. Vous voyez bien que on voit Paris devant nous, on a la Seine devant nous, on a même le kiosque des amoureux plus loin, sur le bout de l'île de Jatte. Donc on voit tout ça devant nous. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Donc moi, pour moi, je considère que ces propositions de relogement n'étaient pas correctes du point de vue géographique, mais du point de vue demande personnelle et les surfaces et les balcons et tout ce que j'ai ici, c'était rien n'était pas équivalent à ce que j'ai. Hein. Et je suis allée voir de l'endroit sur Charles de Gaulle à Puteaux. Derrière, il y a la tour Picasso de Nanterre. Quand je suis allée, il y avait une voiture qui était en feu, pas loin de cet endroit. Donc, inadmissible pour moi d'habiter là-bas, en sachant que à n'importe quel moment du jour et de la nuit, je dois faire le trajet jusqu'à mon travail. Et tout ça, je voudrais quand même avoir le minimum de sécurité. Hein. Parce que Nanterre, c'est pas la même chose que Courbevoie, voisine avec Neuilly. Hein. Une fois que je me suis bien installée, que je travaille à 10 minutes, que la maison est refaite pour les enfants, donc je voulais rester dans cet endroit à tout prix. Tu vis avec ce l'épée de Damoclès sur ta tête, qu'à n'importe quel moment, la décision du tribunal va tomber, pourrait t'expulser, malgré la loi, malgré le fait que la loi est de notre côté. Tu te sens démunie devant tous ces gens-là qui profitent de leur pouvoir. Hein. Toute cette histoire a abîmé des couples, a abîmé des gens qui se sont séparés à cause de ça. Je ne parle pas de Nadia qui habitait au premier étage en face, qui tout le temps qui était là, la pauvre, elle disait « c'est à cause de ça que je suis dans la situation que je suis avec mon mari ». Vous savez, quand vous vivez dans une pression continuelle, que tu dois partir et qu'un veut partir et l'autre veut rester, parce qu'il dit non, c'est pas possible que toujours ceux qui ont le pouvoir et l'argent vont gagner. Si personne ne se bat, ils vont toujours gagner. Alors, et que dans un couple, il y en a un qui veut avoir la paix, qui veut vivre tranquillement, c'est normal qu'il arrive à se disputer dans la famille. Hein. Ben oui, c'est passé pour plusieurs couples, hein. Ils sont séparés.
Et donc votre mari, lui, qu'est-ce qu'il en pense?
Ben, mon mari, il a des hauts et des bas, hein, mais à la fin, il pense comme moi.
Des fois, quand il a des bas, qu'est-ce qui se passe?
Bah, il préfère partir, comme tous les autres, être en paix, mais en même temps... Je lui rappelle que la bataille n'est pas simple jamais. Hein, et si, même si on perd des batailles, il faut gagner la guerre. Bon, c'est pas grave, c'est la vie, mais là, pour moi, personnellement, à ce moment-là, même, mon mari, mes enfants, ils sont en train de faire le bagage en pensant qu'ils vont partir. Mais moi, je dis non, on va pas partir, on va rester. Mais la pression, elle est tellement élevée qu'il ne supporte plus. Il ne supporte plus tout ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer à vivre jour et nuit avec la menace qu'à n'importe quel moment, ils vont venir te sortir. Vous savez que les voisins dans le dernier Bretagne, l'immeuble à côté, ils ont été expulsés le 1er août avec la police et avec tout le baratin, comme si on aurait mis dehors des terroristes. Et donc maintenant, ma famille ne veut pas vivre la même chose. Donc du coup, ils ont commencé à se ramasser leurs affaires. Là, c'est mon endroit à moi. Donc moi, je m'installe. Maintenant, vraiment, je m'installe comme si je serais tout seul. Psychologiquement, je sais, je suis forte et que je resterai même si je reste tout seul. Même si mes enfants ou mon mari vont partir, moi, je resterai par mes pieds, je ne sortirai pas de cet endroit. Donc, s'ils me prennent, ils me jettent par la fenêtre ou ils me jettent par où ils veulent, mais moi, personnellement, par mes pieds, je ne sortirai pas d'ici.
Donc vous êtes prête à rester vivre seule sans votre famille ici?
Ah oui, 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 s'il faut, oui, si vraiment la famille va plier à la fin, parce que bon, vous vous rendez compte, là, la pression qui le font, l'ascenseur qui tombe en panne, la lumière qui s'allume pas, ou des trucs comme ça. Bon, ce que ça me semble un peu bizarre, c'est que chaque fois que l'ascenseur marche, le téléphone s'arrête, donc l'internet ne fonctionne pas, la télé s'arrête sur image, l'ordinateur pareil, chaque fois que l'ascenseur bouge. Mais pourquoi, je ne sais pas.
Dès que quelqu'un prend l'ascenseur?
Oui, dès que quelqu'un prend l'ascenseur, la télé s'arrête sur image. Oui, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des choses qui enregistrent? Je ne sais pas. Mais vous avez vu la caméra devant ma porte qu'ils ont mis? Mieux que ça, ils savent ce que je parle, ce que je dis. De toute façon, ça m'est égal. Même notre avocat, on dit aux autres, si à côté ils les ont expulsés, vous vous rendez compte, même si toutes les lois sont de votre côté, s'ils les ont expulsés eux, ça va être votre tour. Donc, la plupart de mes voisins vont accepter un appartement pour partir. Mais est-ce qu'on s'est battu pour de l'argent? Est-ce qu'on s'est battu pour d'autres appartements? On s'est battu pour rester dans les lieux. Donc, moi, je me suis battue pour rester dans cet endroit où je me suis dit que je veux finir par mourir. Oui, j'étais sur Ceausescu, je savais que je risque ma vie. Je me suis battue pour avoir la liberté, soit la mort, mais pour avoir. Et vous vous rendez compte, s'il n'y a plus personne qui se bat maintenant pour les droits qui nous couvrent, alors on n'a plus de droits. Hein? S'il n'y a plus personne qui va se battre, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, si tout le monde va se plier devant ces géants, alors on ne va jamais gagner, nous les petits. Ils vont toujours être marchés par les géants. Non. Même si c'est une bataille comme dans la Bible de David contre Goliath, c'est pas grave. On va aller jusqu'au bout. David a gagné. Et j'espère que je veux gagner.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin.
Expulsion à la Défense, c'était un reportage d'Élodie Maillot réalisé par Clémence Gros. Sachez que depuis le tournage de ce reportage, 8 locataires occupant les lieux ont déposé un nouveau recours contre leur expulsion devant la Cour d'appel de Versailles le 17 octobre, dont le résultat sera connu en décembre. Et en cette fin octobre, ils n'ont toujours pas de chauffage dans leur bâtiment. Merci à Claire et à Tatiana. Jeanne Delecroix s'est attachée de production des Pieds sur Terre. Camille Richir, c'est notre stagiaire. Et c'est Rose Vidal qui a réalisé le visuel qui accompagne cet épisode sur les réseaux sociaux et sur notre page Les Pieds sur Terre France Culture.
De grâce, réservée. Cette grâce, de grâce, de grâce, Monsieur le promoteur.